Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors on est bien content de vous retrouver pour cette nouvelle année. On vous la souhaite bien bonne, hein, avec de belles observations, avec plein de bonnes choses. Aujourd'hui dans le studio, je suis avec Axel et Rémi.
Bonjour, salut tout le monde.
On fait un petit coucou à Pierrick qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et on va attaquer donc cette nouvelle année avec l'épisode 42 de l'Étoile Polaire. On vous rappelle que vous pouvez nous joindre si vous voulez nous contacter, nous poser des questions ou nous faire part de vos remarques sur l'émission. Ce sera avec plaisir. C'est sur l'adresse astro-rdwa, donc tout attaché astro-rdwa@protonmail.com. Voilà, donc ça c'est pour nous joindre. Et puis on vous rappelle aussi que sur le site de RDWA, vous avez accès à tous les podcasts de l'émission, donc toutes les émissions depuis le début, illustrées par les belles photos de Rémi en général.
En général, Axel aussi.
Axel, un petit peu. Voilà. Donc n'hésitez pas quoi, allez voir tout ça. Vous allez sur le site de RDWA, hein, rdwa.fr. Ensuite c'est les émissions, puis émissions thématiques, puis l'étoile polaire. Voilà, on a tout dit.
Yes.
Alors, le sommaire d'aujourd'hui, on va commencer par le ciel ce soir. Hein, ça reste quand même le cœur de notre émission, l'observation. Ensuite, on fera une petite pause musicale. Et là, pour le début d'année, on a eu envie de continuer une thématique qu'on avait déjà abordée il y a un bon moment, qui est la science-fiction, en fait. Je crois que c'était pour aller écouter, c'était l'épisode 13, il me semble, où on avait discuté un peu de ce que c'était la science-fiction pour nous, de comment ça nous avait influencé. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on va continuer aussi sur cette thématique parce que, de toute façon, ça ne peut jamais être vraiment exhaustif. Il y a plein de choses à dire et on avait envie de ça pour ce début d'année. Voilà. Alors, c'est parti. Axel, je te donne la parole pour le ciel ce soir.
Oui, le ciel ce soir, le ciel de ce mois de janvier, s'il n'est pas trop nuageux comme on a eu ces derniers temps, on va dire que même malgré les nuages, parfois s'ils ne sont pas trop épais, on peut apercevoir deux points dans le ciel très brillants.
C'est vrai.
Et qu'est-ce que c'est ces deux points? Évidemment, c'est des planètes. De gauche à droite, on a Mars, puis Jupiter. Mars qui brille un peu rouge, c'est pas le Père Noël qui est en retard, c'est bien Mars. Et Jupiter qui brille toujours de mille feux. Saturne, elle est là encore en tout début de soirée, mais elle se couche à 19h30, 20h. On commence à plus la voir, Saturne. Il faudra attendre quelques mois pour la retrouver, je crois, au mois de mai, juin, elle ressortira. Mais voilà, Saturne a fini sa saison, en quelque sorte. Et puis, si on a la chance d'avoir un ciel clair, il y a toute une myriade d'étoiles et de constellations qui s'offrent à nous. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la constellation des Gémeaux, qui est une constellation du Zodiac, un signe du Zodiac, je pense que tout le monde le sait, qui se trouve en ce moment à côté de Mars. C'est plutôt l'inverse pour être correct. Mars se trouve près des Gémeaux, à côté du Taureau. Et les Gémeaux, c'est principalement deux étoiles brillantes, les nommées Castor et Pollux. Tout le monde a déjà entendu ces noms-là, je pense. Castor et Pollux, qui sont donc les deux étoiles principales de cette constellation et qui sont dans la mythologie, alors dans différentes mythologies, elles se retrouvent toujours, on retrouve souvent le thème quand même qu'elles vont ensemble. Et chez nous, avec la mythologie grecque dont on a hérité, eh bien ce sont des jumeaux, ce sont les jumeaux Castor et Pollux. Alors, c'est un peu spécial, c'est des jumeaux, mais demi-frères, des jumeaux qui n'ont pas le même père, mais qui sont quand même jumeaux. Mais je crois que c'est possible en vrai.
Tout est possible dans la mythologie, de toute façon.
Oui, mais non, mais je veux dire, même en vrai, je crois que ça peut arriver d'avoir des jumeaux pas du même père, mais bon, c'est vraiment une exception. Bon, dans la mythologie, voilà, on fait ce qu'on veut. Donc des jumeaux demi-frères, Pollux étant le fils de... Ils sont tous les deux le fils de Léda, la maman, et Pollux est le fils de Zeus, qui pour le coup s'était changé en signe pour aller séduire Léda. Et Castor, qui est le fils de Tyndareus, qui était un roi de Sparte. Et ce sont d'ailleurs tous les deux ces deux jumeaux, les frères de deux jumelles, que sont Hélène, la fameuse Hélène, et j'oublie son nom, Clit quelque chose, Clitemnestra, qui est sa sœur jumelle, qui est moins connue que Hélène dans l'histoire de Troie, tout ça. Chez les Romains, c'était aussi Romulus et Rémus, les deux jumeaux à la naissance de Rome. Chez les Babyloniens, bien avant, c'était déjà les grands jumeaux. En anglais, ça a été traduit par les Great Twins, qui étaient Meshlamtae et Ligalira. Et par contre, en Chine, dans la mythologie chinoise, eh ben, eux, ils ont séparé ces deux constellations différentes. Castor fait partie du tigre blanc de l'ouest et Pollux de l'oiseau rouge du sud. Eux, ils ne les ont pas vus ensemble, mais pourquoi pas.
C'est vrai que quand on observe le ciel, on a bon, peut-être parce qu'on est influencé, oui. On a grandi avec ça et tout, mais c'est vrai que tu vois ces deux étoiles-là. En plus, elles font partie, il y a quand même un rectangle là, qui se dessine sur oui. les Gémeaux, c'est comme une forme de rectangle, on va dire, un peu déformé, mais ça ressemble un peu à ça, avec des étoiles plus faibles qui forment ce rectangle. Et elles sont dedans, quoi. Donc c'est vrai que moi, je trouve que ça fait partie justement des dessins du ciel qui sont assez clairement identifiables. Mmh. Enfin, même si les autres étoiles sont peu faibles, je veux dire, la forme que ça crée, on a assez vite tendance à la repérer,
ouais,
quoi.
C'est ça, ouais, l'espèce
c'est
de
remarquable.
Ouais. Ouais. Alors c'est sûr, c'est pas non plus Levé du Taureau, c'est pas non plus Cassiopée ou Orion ou la Grande Ourse, mais quand même.
Ouais. Puis c'est si on regarde les lignes de la constellation, les lignes imaginaires, ça fait deux bonhommes qui se tiennent par l'épaule, deux stickman là, comme on dit, les bonhommes à dessiner seulement avec des traits. Et puis donc pour revenir un peu chez les Grecs, Castor du coup, Pollux, qui était le fils de Zeus, était immortel. Contrairement à son frère et à la mort de Castor, Pollux est allé voir son père en disant « Quand même, mon frère jumeau, il est mort, c'est pas cool, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Et donc il les a mis tous les deux dans le ciel pour qu'ils soient toujours ensemble de façon éternelle. C'est dans cette constellation, dans les Gémeaux, que Herschel a découvert Uranus en 1781. Et un petit peu plus tard, c'est là aussi dans cette constellation que Tambo a découvert Pluton, en 1930, en regardant des photos et en voyant qu'il y avait un point qui bougeait très légèrement. Et puis, pour parler un peu plus concret, c'est des étoiles... Alors surtout Castor, c'est une étoile un peu particulière, parce que quand on la regarde à l'œil nu, on ne voit qu'une étoile, c'est Castor, mais quand on regarde avec un télescope beaucoup plus puissant... Eh bien, on voit que c'est une étoile double, il y a Castor A et Castor B, qui se tournent autour en 400 ans. Et puis, en fait, avec des télescopes encore plus puissants, on a vu que Castor A, c'est aussi deux étoiles qui se tournent autour en 9 jours, et que Castor B, c'est aussi deux étoiles qui se tournent entre elles en 3 jours. Et ce couple de couples, ces quatre étoiles, sont aussi en orbite avec deux autres étoiles, Castor C, qui est aussi une étoile binaire. Donc, en fait, quand on regarde Castor, on voit 6 étoiles, techniquement. Un système sextuple. Et puis Pollux, que dire sur Pollux? Pollux a une exoplanète, elle a une planète qui tourne autour, qui a été identifiée en 2006 et qui orbite en 2 ans à peu près autour de cette étoile. En termes d'objets à observer à l'intérieur, c'est pas une des constellations les plus fournies. Il y a un seul objet Messier, c'est M35, un amas ouvert, mais qui est un amas ouvert avec un bon ciel. On peut le voir à l'œil nu, il est magnitude 5. Très faible, mais quand même accessible à l'œil nu avec un bon ciel. Et puis une fois qu'on l'a trouvé, alors à l'œil nu ou avec des jumelles, si on passe ensuite avec un instrument un peu plus puissant, on verra juste à côté de cet amas ouvert un amas plus faible mais plus dense, beaucoup plus dense, qui a un numéro NGC que je vous donne si vous voulez, c'est NGC 2158, qui lui est de magnitude 8, mais qui comporte 10 à 100 fois plus d'étoiles que M35. Donc quand on regarde, on se sert d'M35 pour trouver cet amas plus faible mais plus spectaculaire. Et puis, pour rester dans les amas, on en a observé un. Alors, il nous a fallu un télescope puissant, mais on a observé un amas assez particulier cet été. C'est le vagabond intergalactique.
Le fameux vagabond intergalactique.
Qui est un amas ouvert encore, un NGC 2419, assez faible, magnitude 9, mais... il a de particulier que c'est l'amas ouvert le plus lointain qu'on ait observé et qui a ce nom parce qu'on pense qu'il n'est même plus soumis à la gravité de la Voie lactée et qu'il est entre nous et
Entre deux galaxies.
Entre deux galaxies, entre nous et Andromède, donc ça fait un peu décalé, mais parce qu'il se trouve à 270 000 années-lumière.
Ouais, ça commence à faire beaucoup. Assez loin, ouais.
Quand on a quelques notions de distance, parce qu'on observe en général les amas, les nébuleuses, c'est quelques milliers, dizaines de milliers. Là, on est à presque 300 000 années-lumière.
D'ailleurs, je te tire mon chapeau pour avoir pointé ce vagabond intergalactique, parce qu'il est bien paumé quand même.
Il oui, n'y
hein.
bah,
a
ouais.
pas grand-chose de brillant grand chose autour. Oui. Donc, il faut quand même faire un long chemin aux chercheurs pour aller le trouver. Et c'est pas le truc à pointer en premier. Quoi.
Oui, non, c'est pas le genre de truc que je te pointe en deux secondes comme ça non plus. Oui. Alors, pour être tout à fait précis, ce vagabond intergalactique, il n'est pas dans la limite de Castor et Pollux, dans la limite des Gémeaux. Il est dans le Lynx, mais il est un peu à cheval entre les deux, et moi je l'avais trouvé en partant de Castor, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et puis pour finir dans les objets, une petite nébuleuse aussi qui a fait parler d'elle dans cette constellation, c'est NGC 2392, ça vous parle tout de suite, non c'est pas grave, mais elle était connue sous le nom de la nébuleuse Eskimo. Aussi la nébuleuse du clown.
Ah oui,
peut-être ça le connaissez, ouais. Voilà, magnitude 9. Et elle a fait parler d'elle un petit peu de façon polémique, parce que voilà, on l'avait appelée pendant longtemps la nébuleuse Eskimo. Et puis il y a des gens qui se sont dit ouais, c'est pas cool d'appeler ça Eskimo, parce que Eskimo, c'est le nom qu'ont donné les, pas les colons, mais les Européens aux Inuits. Et voilà, c'est un nom qu'on a mis comme ça, ça vient pas d'eux, c'est un peu péjoratif. Et donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne l'appellent plus la nébuleuse Eskimo, mais la nébuleuse Inuit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Inuit, dans leur langue, ça veut dire le meilleur peuple, en quelque sorte. Donc c'est aussi un petit peu connoté, ça peut être préjudiciable.
Il y en a plusieurs
aussi.
Des peuples comme ça sur la planète qui se revendiquent le titre.
Non, mais on se dit, bon, on ne va plus l'appeler Eskimo parce que c'est un peu raciste, mais on va l'appeler le meilleur peuple, c'est un peu raciste aussi. Enfin bon,
Clown Nebula, au
voilà,
moins.
Mais la nébuleuse du clown, voilà, ouais. ça met tout le monde d'accord.
Il y a aussi la nébuleuse de la Méduse.
Dans oui, c'est vrai. Ouais, IC 443.
Ouais, 443, 444. Ouais. Ouais.
Nébuleuse de la Méduse que tu as imagée, je ne sais pas
ouais,
si elle.
Ouais, j'avais imagée il y a longtemps. Ouais.
Je ne sais pas si elle figure sur un des podcasts, si elle illustre un des podcasts sur le site.
Simplement, il faudrait qu'on vérifie. Ouais. C'est ouais, un remnant de supernova. Elle ressemble un petit peu au croissant. Elle est très discrète. Elle ressort surtout en photo, en visuel. Oui.
Je ne l'ai jamais tentée en visuel.
Ouais. Pareillement. Ouais.
Mais oui, c'est vrai. Ouais. Pour les astrophotographes, ouais,
dans l'hydrogène.
Belle cible. Ouais. Voilà pour cette constellation des Gémeaux. Et tiens, pour finir, on peut dire Castor et Pollux, ça vous parle peut-être dans la chanson Les copains d'abord de Brassens. Mm-hmm. Il en parle parce que Castor et Pollux sont un peu ceux qui veillent sur les navigateurs. Et ils ont une représentation physique concrète dans le vrai monde. C'est les feux de Saint-Elme. Vous voyez ce que c'est les feux de Saint-Elme quand sur un mât qui passe dans un champ magnétique, un orage un peu fort, sur les mâts métalliques, il peut y avoir des sortes de flammes en haut. Et c'est forcément un peu mystique au début, mystérieux. Et c'était la représentation de Castor et Pollux qui se manifestait sur le bateau.
L'autre jour, je regardais un truc sur Magellan. Et il y a eu un moment où Magellan, il était très 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 croyant, était vraiment à fond. Et ils ont eu plusieurs fois ce phénomène-là sur le bateau. Mais lui, il avait un chroniqueur en fait qui racontait tout ce qui se passait dans l'Est. Donc on a ce bouquin qui est un document historique assez intéressant. Ouais. Et lui, il dit que pendant plusieurs minutes, ils ont vu Saint-Elme. Enfin, il parle pas de Castor et Pollux, mais il parle de certains saints, en fait, qu'ils auraient vu très clairement pendant plusieurs minutes, en haut du mât, etc. etc.
Apparemment, c'est une continuité. À une époque, c'était Castor et Pollux, puis c'est devenu Saint-Elme dans la religion un peu plus. Dans la Bible et tout, quoi. C'est un descendant direct.
Ok. Ben on peut peut-être quand même mentionner juste le reste du ciel, vite fait.
Le reste du ciel,
parce
oui.
Parce qu'il y a quand même quelques belles constellations à observer pendant l'hiver. Là, en plus, on a la chance qu'il fait doux. Alors, c'est vrai que c'est assez humide, nuageux et tout. C'est vrai que c'est pas génial. On sait jamais trop quand on va pouvoir observer ou pas. Oui. Parce qu'en en fait, ça se dégage à des moments. Et puis là, voilà, faut être là. Sinon, tant pis. Mais il fait doux et puis la nuit tombe tôt quoi. Donc c'est quand même des conditions agréables en fin de journée pour observer et on a quand même tout ce ciel d'hiver qui est vraiment beau quoi. Avec le En début de soirée, on voit encore le triangle d'été.
Oui, un tout petit peu.
Vite fait, il se couche. Et on a quand même, du coup, Pégase aussi. Pégase avec Andromède. On a Orion aussi.
On a Persée qui est aux élites.
Le taureau, la casserole qui est à l'envers par rapport à l'été. Enfin, la grande ours. Voilà, donc il y a quand même... Bon, ben là, il faut prendre une carte du ciel et puis vous y mettre. Mais je trouve que les dessins du ciel d'hiver sont... Il y en a en tout cas un certain nombre qui sont assez identifiables, assez facilement, sans trop galérer. Et il y a aussi beaucoup
le
de...
Chien, hein, le grand chien.
Oui, tout à fait. Sirius, le grand chien. Ouais.
Le lion qui arrive aussi petit à petit.
Le lion qui va arriver, ouais. Et c'est assez beau. Il y a aussi, je trouve, plus de zones d'ombre, de zones sombres, on va dire, dans le ciel d'hiver. Et du coup, qui délimite mieux les symboles, qui sépare mieux les symboles, en fait.
Les constellations.
Là où le ciel d'été est un peu plus continu, il y a un peu plus des étoiles partout, je trouve.
C'est vrai.
Voilà, donc c'est une bonne occasion aussi, là, de se mettre aux constellations. Et d'observer tout ça, de voir comment ça tourne et de se faire plaisir.
Tout à fait.
Et puis souvent, on a un ciel bien pur en hiver.
C'est ça. C'est plus clair. C'est plus clair.
Ouais. De contraste aussi. Ouais.
C'est plus noir. Ciel d'hiver, il est quand même... plus ça va et plus je l'aime. Non, mais c'est vrai. Ok. On est bon là-dessus ?
Mais je pense.
On fait une pause musicale. On va faire une petite pause musicale. Alors, en ce début d'année, là, on va se donner un peu la good vibe. Donc, on va mettre un petit Marvin Gaye. Avec un morceau qui s'appelle What's Going On. Et on se retrouve après.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the end. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Right now. Judge us simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Right, right on. Right on.
Right on. Right on.
Yeah, c'était Marvin Gaye pour vous souhaiter la bonne année en musique.
La good vibe.
La good vibe, exactement. Alors passons au gros sujet de l'émission, la science-fiction. Je vais commencer avec une citation de Neil Armstrong, avec lui, qui a dit « Lorsque j'ai posé le pied sur la Lune et que j'ai vu la Terre flotter comme un ballon bleu dans le ciel obscur, j'ai tout de suite pensé à Jules Verne en me disant que j'étais en train de vivre la première aventure de science-fiction de tous les temps. » Qui était pourtant à fond dans la science de l'époque, et pas plus technologique. Alors effectivement, la science-fiction, la science, la fiction, ce trait d'union au milieu qui va un peu dans les deux sens. L'une influence l'autre. Il n'y a pas de science-fiction sans science, a priori. Mais ce n'est pas non plus toutes les sciences. Citez-moi une œuvre de science-fiction qui parle de botanique, de géologie, d'entomologie, de statistiques. Non, en général, ça parle de spatial, de robotique.
Il y en a qui parlent de le monde du nom A, de Van Vogt. Non, tu vois pas ça?
Non.
C'est très mathématique.
Ah ouais.
La statistique, ça a été utilisé dans quelques cas.
Yes. Bon, dans la plupart des cas, c'est quand même des sciences qui s'appliquent à l'industrie, à l'ingénierie.
À la physique, quoi.
Ouais, des choses comme ça. Avec une exception notable quand même pour la sociologie, avec des récits de sociétés différentes. Il y en a beaucoup.
Et aussi, il y a une grosse partie sociologie dans Fondation de Asimov. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est vraiment assez pointu là-dessus, justement. Ouais. Après, quand même, je trouve qu'il y a aussi quand même la biologie dans la science-fiction, sur, tu vois, les espèces, les espèces différentes, tout ça.
Évolutions. Ah ouais.
Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu biologique.
C'est au côté... on parle de la science, on extrapole et on voit ce que ça donne.
Oui.
En biologie, bah, oui, y en a un peu, je vais en parler d'un notamment qui est fondateur. Pas de science-fiction sans science, est-ce que c'est bien vrai? Certains historiens disent que le premier récit de science-fiction qu'on connaît, ça remonte au 2e siècle avant Jésus-Christ, avec l'écrivain Samosat, qui écrivait Histoire vraie, où c'est un bateau qui part de Grèce et qui va sur la Lune. Alors ça implique pas de science dedans, il dit pas que le bateau il a des réacteurs derrière ou quoi que ce soit, c'est juste, voilà, il y a un bateau, il part et il arrive sur la Lune. Donc il n'implique pas de science, mais il y en a qui disent que ça peut être quand même vu comme le premier récit de science-fiction. Un peu plus tard, au 16e siècle, on a L'Utopie de Thomas More, et un petit peu après, L'Histoire comique des États et Empires de la Lune, puis sa suite avec le soleil de Cyrano de Bergerac, et qui a l'air, que j'ai pas lu, mais ça m'a donné envie de le lire en préparant cette émission, où en fait il décrit la société sur la Lune en se moquant tout le long, c'est très satirique sur nos sociétés, sur la Terre, sur ce qu'on vit ici, et en prenant comme sujet les Sélénites, quoi. Mais sinon, dans la science-fiction moderne, on considère qu'il y a trois livres fondateur. Le premier, c'est Frankenstein. Donc là, c'est un peu de la biologie, de l'anatomie. Oui. Donc c'est anglais, avec c'est Mary Shelley qui a écrit ça. Et puis on a eu en France Jules Verne, au 19e siècle, avec De la Terre à la Lune, bien sûr, avec 20 000 lieues sous les mers aussi.
Voyage au centre de la Terre.
Voyage au centre de la Terre, voilà, tout ça. Et puis aussi, encore chez nos amis anglais, avec H.G. Wells, avec La Guerre des Mondes aussi, hein, fin 19e siècle. Voilà, ça c'est vraiment les trois œuvres qu'on considère, ou les trois auteurs en tout cas, qu'on considère comme les pères et la mère de la science-fiction moderne. Et puis, on a vu des choses dans la science-fiction qu'on connaît aujourd'hui, maintenant dans la vraie vie, mais qui sont apparues d'abord dans l'imagination d'auteurs. Comme par exemple le premier satellite, le premier objet artificiel qui tourne autour de la Terre. Alors dans la réalité c'est Spoutnik, mais presque même plus de 100 ans avant, c'est un États-Unien, Edward L., qui avait écrit The Brick Moon, et où il fait mention du premier satellite. Et puis pareil, le mot astronaute, il a été créé dans la science-fiction, pas dans la science, donc par un Français, par des Français, les frères, je sais pas comment ça se prononce, les frères Boez, je sais pas, qui écrivaient sous le nom les frères Rony. Et voilà, c'est eux qui ont créé le mot astronaute, qui était dérivé de aéronaute, qui existait déjà pour ceux qui étaient en avion, en montgolfière, tout ça, on parlait d'aéronaute. Mais donc c'est, étymologiquement, c'est ancien, astro et note. Mais voilà, ça a été créé avant d'être utilisé par les agences spatiales dans un livre. Le mot science-fiction en lui-même, il est états-unien par contre. Mais le genre, on considère qu'il est plutôt européen, voire français, avec des auteurs comme Camille Flammarion, comme Jules Verne que j'ai cité, les frères Rony, Maurice Renard. Et puis un peu plus tard, il y a eu les États-Unis, Asimov que tu as parlé, Philippe K. Dick aussi, évidemment, Robert Heinlein. Tout ça, c'est des grands noms qui ont vraiment popularisé la science-fiction, qui en fait s'est popularisée aux États-Unis. Surtout, enfin, l'âge d'or de la science-fiction moderne, c'est les années 20, les années 30. Et c'est dû pas tant à la créativité des auteurs, mais à beaucoup de contextes. C'était plus facile de produire des livres aux États-Unis. L'industrialisation de la presse a eu lieu là-bas. Après, il y a eu beaucoup de censure en Europe aussi. Il y avait le côté. La littérature était plus populaire dans le sens de plus accessible au bas peuple, on va dire, aux États-Unis, qu'en France c'était un petit peu l'élite et tout ça.
Aux États-Unis, ils avaient la culture des pulps, quoi, de toutes ces revues en fait.
Oui, exactement.
De toutes ces revues dans lesquelles il y a tout un tas d'écrivains qui ont débuté.
Ouais.
Ils ont voyé comme ça. C'était une possibilité d'être édité sur une nouvelle, à condition que la nouvelle soit prise.
Exactement.
Et il y a plein de gens qui se sont lancés là-dedans. C'est vrai que les pulps, c'est vieux, puisque déjà dans les années 20, en fait, Lovecraft ou des gars comme ça, ou Howard aussi, celui qui a fait Conan. Alors, c'est pas vraiment de la science-fiction, mais d'ailleurs, c'est du fantastique, on va dire. Ouais. De la fantasy, en fait.
Mais le lien
c'est
est
assez
parfois
lié.
Flou.
On en avait déjà parlé dans la première émission, mais il y a un lien. La frontière n'est pas toujours très nette entre la science-fiction et le fantastique. Mm. Et on met tout ça un peu sous le terme anglais fantasy.
Ouais.
On n'a pas alors c'est le mot anglais, hein, c'est pas le mot français fantasy. Oui. On n'a pas d'équivalent réellement en français, je crois pas, pour désigner ce style assez vaste en fait de tout ce qui est littérature de l'imaginaire, on pourrait dire. Et après, tous les gens là dont tu parles, Kadic, Asimov, etc., là on est plutôt après-guerre quand même.
Oui.
C'est encore une autre génération.
Oui,
là, après-guerre, c'est vrai que je crois que c'est là que ça a vraiment explosé. Et on a beaucoup, beaucoup de livres qui sont. Les films, c'est venu encore un peu plus tard, le temps qu'il y a eu des moyens techniques aussi pour arriver à ça. Même si, moi je vais quand même mentionner
Méliès.
Ouais. Voilà, c'est évident, c'est quand même un des premiers cinéastes déjà, tout court. Et puis surtout le premier à avoir fait à parler de science-fiction en fait, où il y a le voyage dans la lune, etc. C'est quand même c'est chouette à regarder. Les vieux Méliès, c'est hyper poétique. C'est beau quoi. Mais en tout cas tous ces auteurs là, les grands noms de la science-fiction, c'est beaucoup après-guerre qui ont vraiment influencé, qui nous influencent encore quoi.
C'est vrai. Il y a eu la période, le commencement des comics aussi, qui peuvent être, alors pareil, des fois c'est un peu plus fantasy, des fois c'est science-fiction. Ouais.
Le surfeur d'argent, par exemple, dans les trucs complètement cosmiques. Hein.
Un des premiers, si ce n'est le premier, Superman, qui est quand même un extraterrestre, qui vient sur Terre. Spider-Man aussi, qui est un des plus anciens super-héros, et qui donne des notions de génétique, un petit peu, d'une araignée radioactive qui le mord, ça lui donne des pouvoirs, tout ça. Il y a toujours un côté un petit peu scientifique derrière. Il y a des liens certains entre science et fiction, dans un sens comme dans l'autre. La fiction s'inspire de la première, mais la science peut aussi critiquer la seconde, dans un sens de vulgarisation. Je pense à Roland Le Houx, qui est un astrophysicien français, et qui est connu pour certains, je ne sais plus le nom de son livre, où il parle de Star Wars avec un prisme scientifique. Alors il n'est pas là pour dire Star Wars c'est nul parce que les vaisseaux ils volent comme ça alors qu'ils ne devraient pas, mais pour amener des notions au grand public, ça peut être aussi une porte d'accès privilégiée, de passer par l'imaginaire plutôt que par les mathématiques ou autre, pour expliquer la science. Et puis aujourd'hui, depuis le début du siècle dernier et l'explosion de la science-fiction, Et bien aujourd'hui, on a énormément de scientifiques qui sont scientifiques parce qu'ils ont été bercés par la science-fiction, que ça les a inspirés, et que ça les a fait rêver, et que ça les a amenés petit à petit dans leurs études, puis dans leur profession, à travailler dans la science. Et puis on a aussi des scientifiques qui aiment bien jouer un peu sur les deux tableaux. Je pense à Carl Sagan, qui, si on regarde Cosmos, c'est scientifique, mais il a toujours une porte ouverte à la fiction, à l'imaginaire. Ou Kip Thorne, je ne sais pas comment on dit, qui est consultant scientifique sur beaucoup de films de science-fiction. Il a travaillé sur Interstellar pour apporter une base solide de science pour pouvoir ensuite extrapoler. Seul sur Mars, je crois que c'est Roland Le Houx encore qui parle de Seul sur Mars. Thomas Pesquet aussi, je crois qu'il en a parlé en disant oui, bien sûr, c'est de la science-fiction, mais c'est de la science extrapolée, pas complètement imaginaire. Quoi. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, la science, il y a de plus en plus de disciplines scientifiques qui sont purement hypothétiques. Est-ce que on parle de science-fiction ? Pas tout à fait, parce que c'est toujours pareil, c'est très, très basé, très, très mathématique. Mais voilà, on a des disciplines aujourd'hui qui sont uniquement hypothétiques, dans la physique quantique, par exemple. J'en avais une autre que j'ai perdu.
En cosmologie aussi, tu vois, tout ce qui est sur les trous noirs, tout ça. Donc, bon, nous avoir ça. Moi, je ne reste pas super convaincu, tu vois, par exemple, sur tout ce qui est tous les travaux vraiment scientifiques sur les trous noirs, parce qu'en réalité, les observations, les machins, ouais, on interprète les choses comme ça, mais pour moi, c'est pas clair du tout qu'effectivement, il y a cette étoile, ce résidu d'étoile hypermassive qui déforme l'espace-temps et qu'effectivement, ça se passe comme ci, comme ça. En fait, sincèrement, il n'y a quand même pas énormément de données par rapport à tout ça. C'est des interprétations de trucs qu'on observe et on dit ça pourrait être ça.
Oui.
Mais de là à poser toutes les théories de trous noirs, de trous de ver, de l'espace qui se replie, de passage d'un point à l'autre, etc. Moi, je veux bien. Mais là, on est vraiment, pour le coup, aux limites de la science. Et du coup, la science-fiction, elle s'en nourrit de ça.
Oui, mais on se sert de l'imaginaire pour avancer. Oui, alors, la science-fiction s'en sert, justement, dans le champ des possibles, mais... Ça sert aussi à faire avancer la science. On imagine des choses. Enfin, de toute façon, la science marche comme ça aussi. On pose une hypothèse, donc forcément, c'est fictionnel. Et puis, on la met à l'épreuve des observations et tout ça. Et typiquement, les trous noirs ont été d'abord fictionnels, on va dire, hypothétiques. Je crois créés par Einstein. Dans l'imaginaire d'Einstein, il s'est dit quelque chose qui tourne autour de quelque chose, il faut de la puissance pour s'en aller. Est-ce que ça pourrait être assez lourd pour que même la puissance, la vitesse de la lumière ne suffise pas à s'en aller ? Et voilà, il ne savait pas encore que les trous noirs existaient, mais il s'est dit, mathématiquement, ça pourrait. Et puis ensuite, on en a observé des effets. Je finis pour ce petit édito. Alors, Fred, tu voulais parler de quelques œuvres.
Ouais, moi j'étais parti aussi là-dessus. Grosso modo, il y a quand même. Moi, je voulais parler un peu d'œuvres qui m'ont marqué moi, en fait, et qui sont vraiment sorties du lot. Et que ce soit, alors, il y a des films et il y a des livres. Grosso modo, c'est ça. Et après, je mentionnerai un peu de jeux de rôle aussi, parce que j'en ai fait pas mal à une époque. Et voilà. Alors, peut-être commencer, par les livres. Parce que tu as parlé de H.G. Wells. Et moi, je sais que j'ai été quand même beaucoup marqué par La machine à explorer le temps.
Je ne l'ai pas lu. Mais
c'est quand même un gros, gros monument, quoi, qui a énormément aussi influencé. Où là, on est au début du XXe siècle, hein, je crois. Ça date du début du XXe.
Oui, Wells, c'est ça.
Et l'idée, c'est classique. Hein, voilà, un scientifique qui met au point une machine pour voyager dans le temps. Et sauf qu'en réalité, à travers ça, il va commencer, je ne me rappelle plus trop des détails, mais je me souviens surtout de la fin, alors je ne vais peut-être pas la spoiler, mais, mais grosso modo, il va aller jusqu'au bout du temps, plus ou moins, et voir ce que l'humanité est devenue, mais très très loin. Donc forcément, c'est aussi H.G. Wells là, qui projette un peu ce que lui, il voit dans l'homme et dans son futur potentiel. Quoi. C'est assez sombre hein, quand même, la vision qu'il propose. Voilà.
C'est vrai qu'actuellement, il y a une nouvelle branche de la science-fiction un peu qui s'ouvre, qui se dessine. C'est en anglais, ils appellent ça la cli-fi, c'est la climate fiction, où on parle du dérèglement climatique qui est en cours sur Terre. et qu'on se sert de ça pour produire des histoires derrière. Et ouais, souvent ça donne à réfléchir, souvent c'est sombre, mais pas toujours non plus, ou des fois c'est plus ambigu. Il y a un livre, j'ai oublié le nom et l'auteur, mais où il y a une très belle scène de quelqu'un qui s'émerveille devant une nuée de papillons magnifiques aux États-Unis, sauf qu'en fait ils n'ont rien à faire là à cette époque-là, et donc c'est dû au dérèglement climatique. S'ils sont là à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des oiseaux ailleurs qui n'ont rien à manger, tout ça, mais il y a quand même une bonne emphase sur la beauté de ces papillons à cet endroit-là, et tout en disant que c'est pas normal tout ça. Mais on disait que la frontière est souvent floue entre science-fiction et fantasy, elle l'est aussi avec les romans d'anticipation, enfin les œuvres d'anticipation.
C'est clair. C'est clair. D'ailleurs, ça me fait penser, quand tu parles de dérèglement climatique, c'est Ballard, J.G. Ballard, celui qui a écrit Crash. Crash, ça avait été adapté au cinéma par Cronenberg. Alors, c'était pas de la fiction, c'était du tout, en fait. Mais c'était un truc assez bizarre, une espèce de... Il explorait un peu les liens morbides entre, on va dire, le sexe et les accidents de voiture. C'est très, très spécial. Le film est quand même... Voilà. Bon bref, mais Ballard, il avait écrit il faisait de l'anticipation, il avait écrit un bouquin dans les années 50 qui me semble s'appelait Sécheresse, où déjà il anticipait ça, le manque d'eau sur Terre, ah oui. Et les conséquences que ça pouvait avoir, quoi. Donc c'est clair, et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur que des fois la science se nourrit de la fiction. Je me souviens avoir lu un bouquin de SF des années 50 qui était plutôt mauvais, mais c'est pas grave. Dedans, il y avait tout un petit délire technologique, en fait. Et par exemple, un truc incroyable, le gars, il avait une caméra qui tient dans la main. Et oui. C'était génial. Bon, les caméscopes, ils sont sortis plus tard, tu vois. Mais en fait, il y a plein d'idées, effectivement, qui sont apparues d'abord dans la tête, que ce soit des auteurs, en fait, ou des gens, et puis qu'ensuite, les gens ont cherché à réaliser, parce que ça les étripait de le faire, parce que voilà. Ouais. Donc voilà, H.G. Wells, La machine à explorer le temps, et il me semble aussi que c'est lui qui a écrit L'homme invisible. Non,
c'est possible.
Et L'homme invisible, là, c'est pareil. On est dans quelque part, c'est de la science-fiction, au sens où c'est quelqu'un qui met au point une formule pour être invisible. Ouais. Sauf qu'après, il est bien pris à son propre piège parce qu'en fait, il ne peut pas redevenir visible.
Ah oui.
Et de là, en fait, pareil, il y a une description aussi. Parce qu'il ne fait pas que des trucs sympas, en fait, une fois qu'il est invisible. C'est un mélange, un peu. Oui, oui. Donc là aussi, ça permet... Moi, ça me fait penser, par exemple, à un truc comme le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mm. Ils sont aussi un peu des vieux récits. C'est pareil, quelque part, on peut dire que c'est de la science-fiction. Alors, ce n'est pas très technologique, on n'est pas dans une planète, etc. Mais c'est quoi ? C'est un docteur. Donc là, on est à la fin du 19e, hein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un docteur qui invente une espèce de sérum qu'il transforme. Et en fait, là aussi, tu as une exploration vraiment de la psyché humaine où, en fait, quand il est Mr. Hyde, bah déjà, il est physiquement beaucoup plus fort, mais il est complètement bestial dans ses pulsions. Et il fait tout ce qu'il veut, en fait, tout ce dont il a envie. Et c'est pas joli, joli. Quoi.
Ouais, sans se soucier de la morale.
Sans se soucier de la morale. Ouais. Donc là aussi, c'est toujours une façon. Ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'il a inventé une formule qui fait ça, parce qu'au fond, bon, super, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que l'auteur y propose. Comme vision de l'homme, quoi, derrière. Ouais. Et c'est ça. La SF, elle le fait beaucoup, ça, et elle le fait beaucoup à l'échelle des sociétés.
Ouais.
Hein, où tu as une planète qui a dérivé comme ci ou comme ça, ils ont tel type de gouvernement, il s'est passé ça, il s'est passé des choses. Il y a toujours cette idée, quand même, de pousser un truc plus loin et d'aller voir ce que ça peut nous apprendre sur maintenant, sur nous. Enfin, moi, je trouve que c'est ça. Vraiment, cette exploration, elle est en apparence, elle est spatiale ou voire temporelle, mais en réalité, elle est intérieure. Quoi. Elle est sur l'homme.
Enfin, chez Barjavel aussi beaucoup.
Barjavel, carrément. Ouais. Et Barjavel, pareil, c'est quelqu'un qui écrit. Oui, alors il a écrit La Nuit des Temps. Hein.
Ouais,
où il y a cette histoire là d'homme congelé. Qui est assez belle, mais c'est aussi un gars qui a écrit Les Chemins de Katmandou, par exemple, sur la jeunesse hippie des années 70 française qui partait jusqu'au Népal pour aller se perdre dans les montagnes et dans les paradis artificiels. Donc c'est en fait son exploration, c'est l'humain, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que après, on est sensible ou pas à cette façon de présenter les choses. Il y en a qui vont aimer. Un truc super cartésien, super carré, avec petit A, petit B, petit C, un développement, voilà, des théories, des trucs philosophiques, etc. Et d'autres qui aime bien se laisser porter par des histoires avant tout, hein, des histoires et comme des contes, l'imaginaire, mais qui au fond te ramène aux mêmes considérations, quoi. C'est là que c'est intéressant. C'est pour ça que tout ce courant aussi qu'il y a eu après-guerre de SF très technologique, il en est quasiment rien resté, je veux dire littérairement, parce que ça n'a foncièrement aucun intérêt, c'est-à-dire de triper juste parce que le gars il a une super machine qui fait ça ou machin, mais si en fait ça parle pas de l'humain, ça n'a aucun intérêt. Enfin pour moi en tout cas. Et ça, des bouquins de SF comme ça, il y en a mais une tripotée. Hein. Il y a quand même beaucoup de trucs pas très intéressants. Mais on l'avait dit déjà dans la dernière émission, mais il y a plein de trucs vraiment géniaux. Alors bon. Voilà, moi je voulais parler d'H.G. Wells parce que c'est quand même un des pères fondateurs du genre. Après-guerre, il y a Ray Bradbury avec les Chroniques martiennes, qui moi m'avait beaucoup marqué. Là en fait, c'est une succession de nouvelles où il imagine, on va dire, la colonisation ou la tentative de colonisation de Mars par les humains. Et là, en fait, on est sur une thématique vraiment où on se retrouve face à des entités qui ont des espèces de pouvoirs psychiques, etc. Et la première nouvelle, c'est La Rencontre. Et après, il y en a toute une série comme ça. Et c'est quand même hyper visionnaire. Enfin, je sais pas, c'est une œuvre qui a marqué beaucoup de monde aussi. Parce que là encore, on vient un peu chercher l'image du colon. On vient un peu chercher tout ça. Et de voir aussi, nous, notre vision du monde, à quel point elle peut être... étroite dans notre petit esprit humain qui est quand même infime par rapport à l'immensité du cosmos et à tous les possibles. Donc voilà, c'est un bouquin moi qui avait pas mal ouvert de portes. Un peu avant encore, ouais, il y avait Jack London qui a écrit un bouquin de science-fiction. Enfin, ouais, qui s'appelle Le Vagabond des Étoiles, qui est un super bouquin aussi. Alors moi après j'aime beaucoup Jack London en tant qu'auteur. Mais là en fait c'est l'histoire d'un homme qui est emprisonné pendant plusieurs années et qui découvre une espèce de technique d'auto-hypnose méditative qui lui permet en fait de faire évader son esprit. En fait il est emprisonné sous camisole de force, donc il est vraiment dans une contrainte totale du corps. Et en fait il arrive à faire voyager son esprit et il va là il explore le thème des vies antérieures plutôt, donc il va se retrouver dans des périodes historiques où il a eu d'autres vies avant et il va vivre ses trucs et à plusieurs époques comme ça. Et Jack London, il nous emmène dans ce truc-là. Alors, pour moi, c'est aussi une forme de science-fiction au sens où c'est pas la réalité, quoi.
Oui, oui.
Alors, il y a peut-être des gens qui sont capables de faire ça. On les invitera à la radio si on les trouve. Mais c'est pas quelque chose de très courant, quoi. Oui. Dans notre réalité. Et voilà, pour les livres, je voulais quand même mentionner aussi Endymion de Dan Simmons, le cycle d'Endymion, qui pour moi fait vraiment partie des grandes, grandes œuvres de la fin du XXe. C'est assez conséquent en plus comme production. Il y a quatre gros tomes. Dan Simmons, il a écrit plein de trucs, mais le cycle d'Endymion, là pour moi, on touche un peu au sommet du space opéra, quoi.
Oui.
Donc ce style avec plein de planètes, avec plein de choses qui se passent, et en même temps, il a une réflexion miroir sur la littérature, parce qu'à l'intérieur, il y a un personnage qui est lui-même une sorte de barde. Il y a tout un tas de trucs. En plus, bon, Dan Simmons, il est obsédé par Shakespeare et par la poésie de Shakespeare. Et il y a tout ça qui vient se mélanger. Donc là, on est dans quelque chose de littérairement quand même super avancé. Hein. C'est pas de la sous-littérature du tout. C'est un vrai auteur qui a vraiment aussi, dans sa prose et dans son style, quelque chose à proposer en tant qu'écrivain. Et il y en a aussi plein. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai quand même envie de dire. Dans la science-fiction, il y a plein de gens qui savent vraiment écrire. C'est pas juste, ils ont eu trois idées, aller voir une pauvre planète, trois extraterrestres qu'on bastonne à coups de laser et on rentre à la maison. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Voilà. Et d'ailleurs, il me semble que c'est dans Endymion hein, qu'on trouve... il développe toute une espèce de... Tout un peuple d'humains adaptés à l'espace, qu'il appelle les Extros. Donc là, c'est aussi... Je pensais à ça au début, quand tu parlais de biologie ou de trucs comme ça, vois. Oui. Et c'est aussi un thème qui a été exploré, cette adaptation de l'homme... à l'espace, qu'est-ce que ça peut donner? Et là, c'est vaste débat, quoi. Sur des générations, etc. Il y avait d'ailleurs un petit peu ça déjà dans Dune avec les navigateurs.
Ce qui garde leur forme comme nous.
Ils sont humanoïdes, mais comme il n'y a pas de gravité quasiment, ils ont un corps qui est beaucoup plus diaphane. Une ossature plus légère, des membres plus fins, moins de muscles. Ouais. Bon, voilà. Moi, voilà pour quelques livres. Hein. Je rappelle, on n'a pas la prétention de faire un truc exhaustif. Hein,
il faudrait plusieurs émissions. On pourrait faire une émission par livre.
C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Mais on avait envie de vous partager un peu ça et de vous donner un peu quelques références si dans le tas vous avez envie de piocher. Et si vous avez envie de nous en envoyer, ben vous nous envoyez un petit mail hein, sur astroerdio@protonmail.com. Rémi, tu voulais nous parler un peu de film, toi, plutôt?
Ouais, moi, j'ai surtout des références en cinéma. Ouais, j'aime bien tout ce qui est SF plutôt moderne. Et tu parlais de réalité tout à l'heure. J'aime bien les films qui traitent d'histoires vraies. Par exemple, l'autre fois, j'ai revu First Man. Bon, je trouve que c'est un film... ça a beau être une grosse production américaine, c'est quand même une biographie de Neil Armstrong, du projet Apollo 11, avec des images modernes. C'est agréable à regarder... J'aime bien ces films qui traitent d'éléments réels. Voilà, par exemple, dans Gravity aussi, on voit au début, c'est des actions qui ont existé. Quoi. On voit Hubble, télescope Hubble, amarré à la navette Challenger. Voilà. Des cosmonautes qui bricolent, tout ça. Donc, ça, moi, je trouve que c'est un plaisir. C'est un plaisir que j'aime bien là-dedans, dans la vastitude de la SF. Et il y a un film là qui m'avait attiré l'attention, un film russe. Il y a plusieurs films russes sur les histoires vraies aussi. Il y a notamment Gagarine, un film sur l'histoire de Yuri Gagarine. Et du coup, le cinéma russe, il est un petit peu brut, il est un petit peu... Mais il est très, très évocateur, quoi. Donc c'est surtout des films historiques, quoi. Et il y en avait un qui s'appelle Salyut 7. Donc Salyut 7, c'était une station spatiale russe, une des premières. Là. Et en 1985, à un moment, pendant 6 mois, il n'y a personne qui habitait dedans. Et du coup, il y a un problème, il y a une panne. Quoi, là. Ils n'arrivent plus à la contrôler et tout. Et donc du coup, il y a une mission de sauvetage qui se met en route. Tout ça, donc bon, dans le film, on est sur une romance. Et au final, le film va à traiter de l'humain, quoi, et de la motivation de l'humain à sauver l'affaire, à essayer de résoudre la panne. Et je vous invite à regarder parce qu'il y a de belles images. C'est une reconstitution d'époque un peu, parce que dans les années 80, voilà, les cosmonautes en sortie extravéhiculaire, c'était pas comme maintenant. Et finissent par régler le problème un grand coup de masse sur la carlingue pour remettre au jour un capteur de lumière.
Ça marche.
La vraie histoire, c'est ça, quoi. Après, la romance, elle escalait. Et puis tout à l'heure, on parlait aussi de SF qui traite de phénomènes sociétals. Il y a un des films, l'autre fois, qui m'a beaucoup touché, c'est Don't Look Up.
Ah oui.
Don't Look Up, qui est sur une annonce d'une comète, un gros morceau de caillou qui va droit sur la Terre. Et les scientifiques s'empressent d'alerter le monde, quoi. Et en fait, le monde... on n'a strictement rien à faire.
Oui, ils ne les croient pas forcément.
Ils ne croient pas, c'est trop gros, c'est ça. Du coup, voilà, c'est une espèce de critique de la société actuelle. Parce que, bon, voilà, il y a toute une mise en scène autour des réseaux sociaux, des ci, des ça, le fake. Au point que, voilà, à notre époque, on a du mal à discerner le vrai du faux.
C'est aussi une critique, enfin une métaphore du dérèglement climatique, quoi, de la crise climatique, où on a des scientifiques qui nous disent faut faire quelque chose, enfin attention machin, depuis maintenant presque 50 ans, et que les gens disent oui on verra, et c'est un peu pareil, cet astéroïde qui arrive, on commence à la voir dans le ciel, et tant qu'on la voit pas vraiment dans le ciel, les gens sont là non je regarde pas, d'où le titre Don't Look Up. Voilà, l'analogie est vite faite avec la crise climatique.
Ouais. Ils finissent par se mettre le monde à dos, quoi. Alors...
Oui, après ils sont détestés. Ouais. Ah ouais, c'est un bon film. Ouais,
science-fiction un peu moderne, quoi. Ouais.
Mais là, moi, ça me fait penser à des films. Du coup, tu parles de cinéma russe. Et y a un cinéaste qui s'appelle Tarkovsky, qui a fait pas mal de films, mais il en a deux qui sont clairement des œuvres de science-fiction. C'est Solaris. Il y a eu un remake avec Georges Clooney, tout ça, là, il n'y a pas longtemps. Mais je vous engage à regarder le film original parce que c'est vraiment... Ça n'a rien à voir. On est vraiment à un autre niveau de cinéma. Le truc, c'est que Tarkovsky, bon, alors il faut aimer, hein, c'est un peu le truc un peu cinéphile quand même, j'avoue, parce que c'est noir et blanc. Tu le regardes en VO, sous-titré, en rue. Bon. Mais c'est génial, il y a une ambiance de fou et il n'y a pas énormément de moyens techniques. Hein, c'est ça aussi. Ouais. Et c'est ça aussi le talent, je trouve, de Tarkovsky, c'est qu'il réussit à te mettre une ambiance et à t'emmener dans des histoires où là quand même, dans Zone 51, il s'agit quand même d'une rencontre, on peut dire extraterrestre, mais avec une entité qu'on voit vraiment, pas vraiment, qui parfois prend forme humaine. Alors, est-ce que c'est des hallucinations? Est-ce que c'est nanani? Mais ça se joue vraiment au niveau du contact psychique, en réalité. C'est assez fin quand même, ça vient jouer sur les émotions, etc. Je mentionne qu'à la base, ce Solaris, c'est un bouquin. C'est un bouquin d'un auteur polonais qui s'appelle Stanislas Lem. Et le bouquin va encore plus loin dans ce truc de jeu psychologique et émotionnel avec cette entité extraterrestre. Je ne sais plus si c'est autour de quelle planète. C'est autour d'une planète du système solaire, je ne sais plus si c'est Jupiter ou Saturne, je ne me rappelle pas. Mais c'était vraiment génial, à la fois cinématographiquement, visuellement, dans l'ambiance, mais aussi sur la thématique où on est vraiment loin d'Independence Day. On est plutôt dans des trucs à la chronique martienne, avec voilà, une rencontre qui se passe dans l'esprit en réalité, avec des entités qui sont impalpables, quoi. Et je mentionne aussi de Tarkovsky, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle Zone 51, qui est vraiment génial. Et là, c'est trois bouts de ficelle. Là, pour le coup, ça se passe sur Terre, dans une espèce d'endroit. Donc, c'est à moitié une sorte de ville avec toute une zone à moitié en ruine. Et c'est pas trop clair. Il se passe des trucs bizarres dans cette zone. Le temps qui s'écoule pas pareil. Il y a des présences, des choses. Mais en fait, on sait jamais vraiment. Comme de toute façon, ça reste inconcevable, en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant, des fois, je trouve, c'est les mecs qui poussent ça en disant, de toute façon, en fait, avec notre petit esprit humain et notre petit cerveau, on ne peut pas appréhender certaines choses. Ah oui. Donc, on en voit des effets, on en voit des trucs, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Et on n'aura jamais la clé. Et ça, c'est aussi une thématique intéressante. C'est vrai que c'est moins exploré, parce que si on te dit, je vais faire un bouquin sur un truc, oui, je vais rien t'expliquer, tu vas rien comprendre. C'est clair que
je vais rien te montrer.
Je vais rien te montrer. C'est un peu ledge, quoi. Mais là, en tout cas, là, son génie, c'est que ça marche, quoi. Donc, ouais, je vais mentionner ça. Et puis, deux dessins animés aussi. Il y a Roland Topor, la planète sauvage, et Gandhar, les deux. Donc là, c'est des dessins animés de science-fiction. Ouais. Des années 70, mais c'est complètement psyché. Mais vraiment, vraiment, ça sent le champignon à plein nez, mais c'est vraiment excellent, quoi. Et très, très, là aussi, très beau, très poétique, et qui t'emmène sur des histoires d'évolution de l'humanité et des histoires de rapport à la violence, à tout ça, qui sont super intéressants. Sous couvert d'un dessin animé, qui n'est pas pour enfants, hein. c'est pas spécialement pour enfants. Mais c'est vraiment, vraiment très chouette. Voilà.
Le dessin animé a cet avantage de... Peu importe ce que tu veux montrer, ça ne coûte pas plus cher, quoi.
C'est clair.
Ouais. Un film, clair. Il va te falloir... Aujourd'hui, c'est des effets spéciaux. Avant, c'était des décors ou quoi. Enfin, en tout cas, ça demande toujours une grosse production. Et un dessin animé, il suffit de... Il n'y a que l'imaginaire qui limite.
Oui, il n'y a pas de limite. Voilà. Et puis quand même, pour préparer cette émission, j'avais réécouté l'autre, l'épisode 13, où on avait parlé de tout ça, et je me suis dit qu'il y avait quand même 2-3 films qu'on n'avait pas du tout mentionnés, et qui pour moi étaient quand même super importants. Il y en a deux de Spielberg, E.T. E.T., pour ceux qui, comme moi, avaient 10 ans quand c'est sorti, forcément ça impacte, quoi. Là aussi, hein, il renverse complètement le truc. Le méchant dans l'histoire, c'est pas E.T.
Ouais.
C'est le gouvernement américain. Donc bon, déjà. Et puis au-delà de ça, voilà, cette possibilité de pas avoir peur. Enfin, de dépasser la peur, en fait, de l'inconnu pour aller vers la rencontre. Mmh. Est-ce que ça peut apporter ça? Bon, ça reste une thématique intéressante quand même. Et puis, un truc que j'ai adoré, moi, c'est Rencontre du troisième type. Alors c'est pareil, je pense qu'à revoir, bon, bah, c'est du cinéma des années 80, donc c'est beaucoup plus lent, c'est pas du tout pareil. Je suis pas sûr que la nouvelle génération soit en masse passionnée par ce film, parce que c'est un autre format. Mais moi j'avais trouvé que la thématique était géniale, où là aussi il y a des extraterrestres qui vont arriver sur Terre, et qui en fait, on ne sait pas pourquoi, mais on choisit un certain nombre d'humains pour leur envoyer des signaux sous forme de rêve, pour leur donner un rendez-vous, en fait. Les gens voient cette espèce de montagne et ils ne comprennent pas, ils sont complètement obsédés par cette montagne, ils cherchent ce que c'est, est-ce qu'elle existe, nanani, nanana, et finalement c'est là que va avoir lieu la rencontre. Et il y a une espèce
Est-ce que c'est Bukharak ?
C'est pas Bougarache. c'est aux États-Unis.
Ah oui.
États-Unis. Mais voilà, ça, pour moi, c'était deux films qui étaient importants. Et je voudrais mentionner Soleil Vert aussi. Quand même, Soleil Vert, Charlton Heston, c'était énorme. Où là aussi, là, on est dans de l'anticipation plus que de la science-fiction. C'est-à-dire, on est dans 50 ans où, avec une population sur Terre qui, en fait, peut plus se nourrir parce que, justement, le climat est devenu tout pourri. Je crois que les mers sont asséchées, un truc comme ça. Enfin, bon. Et en fait, ils en arrivent à manger les morts, quoi. Oui. En les reconditionnant. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais c'est ce qu'ils mangent, quoi.
Ah, oui.
Sauf les riches qui, eux, ont des serres, etc.
Oui.
Voilà, comme d'hab, quoi. Donc là aussi, grosse critique sociale. Et film important, quoi. Et je terminerai avec Terminator, quand même, parce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois. Mais le premier Terminator, là aussi, ça a vieilli, hein, c'est sûr. Je ne vais pas dire le contraire. Mais quand c'est arrivé, ça, dans les années milieu 80, là, l'ambiance, le visuel, c'était hyper sombre, hyper... vraiment très sombre, pour le coup. Même si, on va dire... il est quand même détruit à la fin, le Terminator, mais... Mais tout le monde crève, c'est très très noir, quoi, sur l'avenir de l'humanité, sur tout ça.
Ouais.
Et ça avait été quand même une grosse grosse claque dans le cinéma, quoi. Alors je parle pas de toutes les suites, mais le premier, ouais, c'était quand même quelque chose, quoi. Voilà, pour les films.
Pour une note rigolote, est-ce que vous avez un film de science-fiction à ne pas conseiller, à ne pas voir? Parce que moi j'en ai vu un la semaine dernière.
Ouais, c'était quoi?
Oh là là. C'est s'appelle, je crois que c'est de 2017, ça s'appelle Life, avec un sous-titre du style une menace venue d'ailleurs ou je sais pas quoi. Et ce qui m'a dérangé, c'est que c'est complètement incohérent. Alors pas incohérent avec la science, parce que ça, je veux bien faire le... bien accepté, tu te mets dans un film, ça correspond pas aux lois physiques, machin, mais pourquoi pas. Voilà, dans Star Wars, les sabres laser, c'est pas censé marcher comme ça, les vaisseaux, c'est pas censé voler comme ça. Dans la diégèse du film, c'est cohérent. Tous les vaisseaux volent pareil, par exemple. Et là, dans Life, il y a des incohérences au sein même du film, qui essayent de se donner des bases scientifiques et pour en faire n'importe quoi derrière. Pour faire simple, on récupère sur l'ISS une capsule qu'on a envoyée de Mars. Il y a des échantillons qui ont été récupérés sur Mars, tout automatisé, ça revient jusqu'à l'ISS et ça doit être étudié dans l'ISS. Et alors ça commence avec des incohérences, des incohérences avec la science, avec la vraie vie. Par exemple, le vaisseau, la capsule qui arrive avec les échantillons, elle arrive à la station à une vitesse relative énorme, alors qu'en vrai, un docking, ça prend des heures, on y va tout doucement à quelques mètres secondes, et voilà. Pourquoi pas? Ils choisissent de mettre le héros, c'est Ryan Reynolds, qui sort de la station pour piloter le bras de la station depuis l'extérieur, pour choper le truc au vol en passant. Je dis jamais la NASA ferait ça. Mais bon, allez, pourquoi pas, c'est un film. Mais par contre, après, il y a des cohérences du style. La bestiole, parce qu'il y a une bestiole qui sort des échantillons, elle passe un moment deux heures hors de la station et elle meurt pas. Bon, pourquoi pas? Et puis après, elle arrive à re-rentrer dans la station. Et là, ils disent, OK, on se met tous dans le même module et on dépressurise toute la station, comme ça, on va l'asphyxier. Je dis, ben non, elle vient de passer deux heures dehors. Et puis, à un moment, ils essayent de la brûler avec un lance-flamme. Alors, pareil, jamais la NASA utiliserait du feu dans l'espace. Mais admettons, ils essayent de la brûler, elle ne brûle pas. Pourquoi pas? Et après, ils disent, ouais, mais on peut l'asphyxier parce que c'est une vie basée sur le carbone. Je dis, ben, si c'est une vie basée sur le carbone, ça brûle. C'est comme ça. Pour vous prouver, pour ceux qui cuisinent dans un four, on met très rarement à plus de 180, parce que à partir de 180, les chaînes de carbone se détachent et on brûle, quoi. Donc, enfin voilà, je trouvais ça trop d'incohérences comme ça. À la limite, dis pas que c'est une vie basée sur le carbone et dit qu'il crame pas. Ça me
c'est
va.
Juste un mauvais film.
Mais oui, voilà.
Il y en a un paquet.
Il y en a un paquet.
C'est le dernier que j'ai vu, donc je l'ai en tête là. Mais voilà, si vous tombez dessus, passez votre chemin. Life avec Ryan Reynolds, bof. Je sais pas, il y en a un comme ça qui vous vous êtes dit celui-là vraiment.
Moi, les navets, trop... j'essaie de les effacer de ma mémoire.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ce que je me dis. Je pense que l'année prochaine, je l'aurai oublié celui-là.
Mais... Ils ont tous un mini intérêt quelque part, mais c'est vrai que sans ça, c'est. Ouais, globalement, c'est des films qui nous marquent pas. Hein.
Non, ouais. Qui passent aux oubliettes de la mémoire.
Sur les ovnis, les films sur. Après, il y en a pas mal qui tournent aussi un peu en film d'horreur.
Et Ed Wood, quand même, tiens, oui. Ça me fait penser à Ed Wood. Vous voyez pas ce cinéaste, comment il a fait Plan 9 from Outer Space. Non. Ed Wood, c'était un des. Il a la réputation d'être genre le plus mauvais cinéaste de tous les temps. C'est un délire. Mais en fait, c'est pas vrai. Il faisait des films de science-fiction, mais avec trois bouts de ficelle. Mais vraiment. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu vois, quand il voulait faire une espèce de tremblement, par exemple, de terre ou un truc, tu voyais les ficelles qui tiraient tous les meubles. Oui, quoi. Oui. C'est ridicule, ridicule, ridicule. Mais tellement ridicule, en fait, qu'il y a certaines franges, tu vois, des gens qui ont commencé à triper là-dessus, oui, en fait, oui, bah oui. À le prendre au second degré. Oui. Et ils en ont même fait un film sur sa vie, Ed Wood. Mais ces films étaient quand même. C'est pas qu'ils étaient mauvais, enfin quelque part c'est mauvais, mais c'est tellement, tellement, tellement mauvais que ça devient hallucinant.
Oui, oui.
Tu scotches le truc,
tu peux gagner un niveau comme ça.
Ouais. Et tu rigoles. En fait.
Oui, oui, bah, comme le film Mortal Kombat aussi, qui est culte parce qu'il est nul.
Ça, c'était vraiment raide.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'ils ont ça, on peut leur accorder ça quand même au navet.
Des fois.
Si tu le prends au second degré avec tes potes, ça peut être une soirée marrante.
C'est encore un autre concept.
Alors, tu voulais nous parler des jeux de rôle ensuite.
Ouais, je voulais mentionner un peu deux, trois trucs en jeu de rôle. Bon, alors évidemment, y avait Star Wars qui avait été adapté. Et ça marchait bien. Il y avait un jeu qui est assez peu connu, qui s'appelle Empire Galactique, qui était vraiment très, très bien. Bon, je vais peut-être pas m'étendre plus que ça. Je sais pas si ça parle à certains auditeurs. C'était assez confidentiel. Déjà que le jeu de rôle, il n'y a pas forcément grand monde. Là, on passe vraiment dans le confidentiel. Mais il y avait tout un univers qui était super développé, qui était très scientifique, justement, aussi. Oui. Et tout un mélange aussi de différents niveaux. Ils avaient le concept de niveau technologique. Et donc, tu pouvais avoir des planètes avec des civilisations à l'âge de pierre. Mmh. Et puis d'autres qui avaient des vaisseaux capables de traverser les galaxies, quoi. Et t'avais tout un tas. Bon voilà, ça c'était. Moi j'avais adoré ce jeu et on a beaucoup évolué dans cet univers de science-fiction grâce à ce jeu, quoi. Et parce qu'après c'est ça qui est rigolo avec le jeu de rôle, quoi. C'est que t'incarnes un personnage et tu te balades dedans, tu fais des aventures et t'explores le monde. Bon à la hauteur de ce que le maître de jeu est capable de te proposer, mais
oui, voilà. Toujours.
Mmh, mais ça peut être chouette. Ouais. Et surtout, je voulais mentionner en fait les courants cyberpunk parce que bon il y a eu des bouquins, mais il y a aussi le jeu de rôle cyberpunk. Mmh. Un autre un peu moins connu, ce système de jeu était quand même un peu pourri, mais il s'appelait Shadowrun. Par contre, qui au niveau du monde était vraiment intéressant. Et ça, je voudrais en parler un peu parce que là, on est dans, on va dire, de cyberpunk, c'est plus de l'anticipation des années 80. Enfin, c'est un truc américain qui est né aux États-Unis au début des années 80.
Oui, il y a le côté Blade Runner.
Ouais, exactement. Il y a le côté Blade Runner, mais bon, un peu. C'est encore un peu différent, mais il y a clairement une Blade Runner, il est dans cette teinte, dans ce type de monde. Mais la base des mouvements du truc cyberpunk, c'est une vision où en fait les États n'existent plus. C'est les corporations, donc les grandes entreprises qui dirigent tout, qui ont des milices privées extrêmement bien armées et qui font en fait ce qu'elles veulent, quoi. Et puis il y a tous ceux qui dirigent les corporations, il y a tous ceux qui bossent pour les corporations, et puis il y a tous les autres. Bah, qui sont dans une misère noire, en fait, et qui essayent de survivre, et avec en particulier dans les villes, dans tous les endroits, ce qu'on va appeler la zone de combat. C'est-à-dire des zones de non-droit total, où là, c'est le Far West, quoi. Ouais. Et avec toute cette idée aussi d'humains modifiés par la technologie, donc avec des yeux qui te permettent de voir dans le noir, avec des bras qui te rendent plus fort, etc., etc. Des trucs qui te permettent de respirer sous l'eau, n'importe quoi. Donc tout ce côté un peu cyborg.
Et transhumanisme.
Ouais. Et aussi tout ce côté la matrice, quoi, en fait. Donc Internet n'existait pas encore à l'époque, mais cette idée d'un monde virtuel, ouais, informatique. Ouais. Et donc avec des gens qui circulent là-dedans. Bah, pourquoi ? Bah, pour voler des informations, des hackers, quoi. Mmh. Et qui et tout ce monde secondaire de la Matrice. Et ce que j'aimais beaucoup dans Shadowrun, c'est qu'ils avaient rajouté une dimension où ils avaient réintégré aussi, on va dire, tout ce qui est chamanisme, en fait. Avec une sorte de résurgence, tu vois, une forme, il y avait tout un système de magie et tout, où en fait, tu pouvais aussi, rentrer dans ce monde-là. Et je trouvais que c'était un univers, du coup, qui était assez super dense, en fait, assez complexe, assez proche de ce qu'on est en train de vivre, je trouve, au final. Même si ça prend plus de temps, eux, ils avaient placé ça dans les années 2020, ou des choses comme ça. Donc, effectivement, ça ressemble pas encore complètement à ça. Mais clairement, pour moi, il y avait une intuition à cette époque-là, là, de ce qu'allait être la société 50 ans plus tard, quoi. Donc ça mérite quand même d'être mentionné. Il y a un film, bon, le film n'est pas ouf et n'embrasse pas toutes ces thématiques, mais qui s'appelait Johnny Mnemonic, qui se passe vraiment dans un truc cyberpunk où lui, voilà, il rentre dans la matrice, tout ça. Bon, il y a tout un petit scénario où, comme d'habitude, il essaye de survivre face à tout un tas de gens qui essaient de le tuer. Mais le film n'était pas ouf, mais par contre, l'univers, c'était ça, quoi. C'était vraiment une illustration de ce courant de pensée-là qui est intéressant et qui fait aussi partie de l'histoire de la science-fiction. Voilà.
J'étais en train de regarder parce que je me demandais si ça avait été adapté en jeu vidéo. Ça me dit quelque chose, ce nom Shadowrun. Et effectivement, ça a été adapté plusieurs fois en jeu vidéo. Mais Cyberpunk aussi, d'ailleurs, très récemment. Et ça me fait penser aussi à un jeu vidéo, à un jeu de rôle. Un jeu vidéo, je ne sais pas s'il est adapté d'un jeu de rôle papier à la base, mais c'est Deus Ex. Et c'est ça, c'est un peu un monde futuriste des années 80, et avec du transhumanisme beaucoup, c'est un peu au centre de l'histoire. Et, tout ça, ouais. Qui m'avait bien marqué, Deus Ex. Mm-hmm. Puis sinon, en jeu vidéo, j'attends aussi, comme beaucoup de gens, une grosse production qui devrait sortir cette année, qui s'appelle Starfield. Qui va être un jeu de rôle dans l'espace, qui est développé par ceux qui ont développé Skyrim, toute la série des Elder Scrolls, qui sont des très grands noms, voire le plus grand nom de jeux de rôle en jeu vidéo, qui jusque-là étaient en mode médiéval fantastique. Et là, ils mettent un pied dans l'espace avec Starfield. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ok. Non. Et ben voilà pour ce petit panel sur la science-fiction. Là encore, on n'est pas exhaustif. Il y a sûrement plein de choses qui vous ont plu et dont on n'a pas parlé. Mais voilà, en ce début d'année, on partage tout ça avec vous. J'espère que ça vous donnera quelques idées pour creuser tout ça. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine, de belles observations du ciel. N'hésitez pas, sortez, regardez, prenez une carte du ciel, regardez les constellations. Et puis faites-vous plaisir. À la semaine prochaine.
Ciao. Salut.